La Gabrielli à Palerme par l'auteur de Laval. Voici la 22e heure qui sonne, docteur. Adieu. Tuez vos malades s'il le faut, et ne me faites pas attendre, car je n'y tiens plus. Je brûle d'un amour profond. Je l'adore, cette enchanteresse. Donc, faites vite.
Adieu, principe, répliqua le docteur. Un soupir exquis, n'est-ce pas?
Ceux de Lucullus tant vantés n'étaient que des collations, comparés à celui de ce soir. Adieu, prince.
Et, à propos, Fabroni, ménagez mes piastres surtout.
Mais le docteur était déjà dans le cassaro, riant sous cape avec un prodigieux air de raillerie, tandis que le prince, en proie au délire dont il avait parlé, se mit à fredonner, d'une voix capable de faire fuir des bédouins, la fameuse ariette de la Didon de Métastase, Son Regina e Sono Amante. Cette intrépide dilettante n'était rien moins qu'un noble cavalier de 60 ans. Une gigantesque perruque, toute neigeuse, couvrait sa tête et la plus grande partie de son visage ridé. Un habit de velours à paillettes d'or, d'une ampleur inouïe, dissimulait tant bien que mal ses membres grêles. On voyait qu'il voulait, à force d'art, faire oublier les ravages des années. Mais hélas, ce qu'il ne pouvait cacher aussi bien à ceux qui l'approchaient, c'était sa sordide avarice, la petitesse de son esprit, sa soif ardente de domination, et pour combler la mesure, ce grand homme venait de s'éprendre d'un fol amour pour la divine Gabrielli, la perle des prime donne de l'Italie.
Ce drôle de Fabroni est capable de me faire dépenser 500 piastres, murmura l'avare après qu'il eut fredonné tout à son aise.
Puis, songeant à l'heure avancée du soir, il rentra précipitamment au palais du gouvernement et se fit couvrir de sel et de parfum, attendant l'heure du souper avec une impatience toute royale. Tel était le grand homme qui gouvernait alors la Sicile en qualité de vice-roi. Le docteur Fabroni riait encore de son rire sournois quand il retrouva son carrosse au coin de la place au Templa. Il s'élança dedans et sortit de Palerme par la porte de Carini. À quelque distance de cette porte, on quitte le vaste faubourg de l'Ivazza, percé de chemins ombreux, pour entrer dans une plaine nommée par les anciens Aurea Valis et Concha Aurea. Cette vallée d'or est d'une beauté inouïe. La nature y semble toujours en fête. Des eaux vives murmurent sous des haies de lauriers roses. Des orangers, des palmiers, des caroubiers, des citronniers dessinent leurs têtes vertes et touffues sur l'azur éclatant des cieux. Palerme, dans le lointain, repose au bord de la mer tyrrhénienne, et l'on aperçoit, de distance en distance, des casins blanchâtres ou des palais mystérieux bâtis par les émirs sarrasins. Le carreau de Fabroni s'arrêta devant un de ces palais. C'était là que le vice-roi venait quelquefois se délasser des fatigues du gouvernement. Confident des plaisirs du maître, Fabroni, qui y trouvait son compte, ne négligeait rien pour entretenir son ardeur amoureuse, et c'était lui encore qui avait écrit à la Gabrielli pour l'engager à venir passer une saison en Sicile. Tout annonçait un luxe mesquin dans ce palais où le docteur était entré. Les meubles les plus magnifiques heurtaient des meubles fanés et d'un goût affreux. On voyait qu'ils avaient été pris partout. C'était un luxe d'avare, le pire de tous. Mais Fabroni, quand il avait la bride lâchée, n'était pas un homme à s'arrêter en face de cette misère. Le vice-roi voulait donner à souper à la célèbre cantatrice et pour lui, l'essentiel était d'ordonner un repas exquis. Il faut lui rendre justice. La table était digne d'un affranchi des beaux jours de Néron. Le vice-roi arriva dans un superbe carrosse à 6 chevaux, qui semblait avoir vu s'écouler un grand siècle. Les chevaux n'étaient guère moins vénérables, et aussi les 4 seigneurs qui accompagnaient l'amoureuse Altesse. Mais qu'on juge de l'angoisse du vice-roi, quand après 1 heure d'attente, Fabroni entra dans le salon tout éperdu, en disant que la Gabrielli était indisposée et ne pouvait venir.
Comment ? S'écria l'avare, elle ne viendra pas.
Et ce souper serait perdu, et je me verrais forcé d'attendre et de recommencer un autre jour.
Ah, c'est encore un tour de cette capricieuse.
J'ai épuisé toute la rhétorique de l'école salernaise, monseigneur, répliqua le docteur avec humilité. Elle m'a congédié en me disant qu'elle resterait couchée jusqu'à l'heure de l'opéra.
Comment ? Elle me fait un affront et elle pense chanter ce soir ?
S'écria le vice-roi furieux. Qu'elle prenne garde.
Combien as-tu dépensé, Fabroni ?
Ajouta-t-il à voix basse.
Mais je ne sais, monseigneur, 1000 ducats peut-être.
Quoi ? 1000 ducats ? S'écria-t-il en secouant sa formidable perruque.
je dépense 1000 ducats pour un souper, et cette Kativakia se moquera de moi. Ah, par Sainte Rosalie, je ne le souffrirai pas. Que votre Altesse daigne se calmer, dit le prince Palagonia, une espèce de fou qui venait de faire exécuter 1200 statues grotesques pour son palazzo de la Bagaria. Je cours la chercher. Veuillez m'accompagner, Biscari. Les deux princes reprirent le chemin de Palerme en disant que Fabroni était un sot. Ils croyaient pénétrer sans aucun obstacle jusque dans le boudoir de la prima donna. Mais la Gabrielli apportait en Sicile les idées qu'elle avait constamment suivies en Italie, et en une heure, cette femme généreuse, cette simple fille d'un cuisinier, devait venger les plébéiens de 15 siècles d'outrage. Quand les deux princes se firent annoncer, la Gabrielli était couchée sur son lit. Sa toilette offrait un voluptueux désordre. C'était une petite femme vive, ardente et grillarde. Sa figure était délicieuse, et quoiqu'elle louchât de l'œil droit, ce défaut semblait encore ajouté au piquant de ses traits. Elle riait avec un bonheur inouï de la colère de l'avare altesse, et s'amusait à boucler les cheveux noirs d'un jeune et charmant cavalier agenouillé sur des coussins au bord de son lit. « Croit-il donc, ce vieux ladre, disait-elle, que je suis venu en Sicile pour écouter ces balivernes? Eh bien, il se trompe. Je veux être libre. Et le temps que je passe hors du théâtre t'appartient, mon beau Goffredo, et à toi seul. Vous êtes ma reine, ma maîtresse et ma divinité, répliqua le jeune Sicilien en baisant les belles mains que la cantatrice lui abandonnait. Mais je t'aime, Goffredo, je t'aime, vois-tu, et pourtant tu n'es pas riche, toi. Tu n'as ni carrosse, ni chevaux, ni laquais. Tu ne m'as pas donné des diamants, des parures en perles, ni un palazzo. Je voulais de l'amour et tu m'as donné ton cœur. Je suis contente et orgueilleuse, mon Goffredo. Ah, que ne suis-je vice-roi ? Dit le jeune homme en soupirant. Oui, dit-elle en riant comme une folle, pour mettre la disette chez les parfumeurs, n'est-ce pas ? Pour avoir 60 ans, une perruque de bisaïeul et devenir amoureux de la Gabrielli qui se moquerait de toi. Vois-tu, mon pauvre Goffredo, ajouta-t-elle d'une voix émue, quand une femme jeune et belle consent à écouter la voix chevrotante d'un vieillard, plains-la, car elle est bien malheureuse, ou elle n'a pas de cœur. La Gabrielli fut interrompue par sa camérière qui se glissa sans bruit vers sa couche. « Madame, lui dit-elle, les princes attendent dans votre antichambre. »« Attendre, répliqua la cantatrice, c'est un métier de courtisan. Comme ces seigneurs y sont habitués, dis-leur que je leur présente mes bonnes grâces et que je suis à ma toilette. » La camérière sortit et la Gabrielli se remit en riant à jouer avec le beau cavalier. « Cette conduite t'étonne, mon naïf Sicilien, reprit-elle en l'embrassant. Ici vous êtes en arrière de 10 siècles. Quand un homme a un titre, chacun se courbe devant lui et le laisse passer. Tout cela est absurde. J'ai connu un cardinal, homme d'esprit d'ailleurs, qui s'estimait, avec raison, plus que tous les innombrables ducs et princes romains. Pourtant il était fils d'un chaudronnier. En Italie, on rend assez justice aux grands talents, et souvent à Florence, 10 seigneurs attendaient chez moi que je fusse visible. Orgueilleuse, murmura le jeune baron encore sous le poids des idées féodales qui dominaient en Sicile. C'est philosophe que tu devrais dire, mon empereur. Mais voici une nouvelle voiture qui s'arrête. Si c'était le vice-roi en personne. Ma foi, il ferait aussi antichambre. Cependant, je dois me tenir sur mes gardes. « Entrez dans mon boudoir, Goffredo, car je vais jouer un bon tour à l'altesse et à ce ruffian de Fabroni. » Mais ce n'était ni le vice-roi ni le docteur. C'était tout simplement un troisième prince que la Gabrielli reçut parce qu'il avait de belles manières. Il lui dit que le vice-roi la verrait au théâtre puisqu'elle lui faisait l'affront de ne pas accepter son souper. Il a dit cela d'un ton furieux, n'est-ce pas, monseigneur ? « Vous êtes trop belle et trop séduisante pour que je vous trompe, » répliqua le prince. « Oui. » Son Altesse est en proie à la plus violente colère, et je vous supplie de mettre ce soir la noblesse de votre côté, car il a été question de la prison. La prison ? Fit-elle d'un ton railleur. Oh, monseigneur, le vice-roi de Sicile, vous êtes galant comme un inquisiteur. Eh bien, vous ferez l'épreuve du caractère de la Gabrielli. Retournez vers votre maître, seigneur, et dites-lui que je serai au théâtre à l'heure voulue. Ah, il veut me faire emprisonner l'avare. Eh bien, je le ruinerai. Ayant rappelé Goffredo, elle fit une toilette des plus séduisantes et s'en alla au théâtre. Comme le vice-roi la lorgnait d'un air menaçant, elle chanta faux, et au lieu de cette voix vibrante qui d'ordinaire électrisait tous les spectateurs, ce fut un chant monotone, triste et toujours sotto voce. Le public qui l'adorait n'eut pour elle qu'une tendre pitié, la croyant sérieusement malade. Mais le vice-roi, furieux de ce nouvel affront, la fit menacer des rigueurs de la prison, si elle ne chantait pas comme les jours précédents. « Dites à votre maître, répondit-elle à l'envoyé d'une voix pleine d'ironie, dites-lui que sa tête blanchie n'est guère sage. Quand on a pratiqué la séduction pendant un demi-siècle, on devrait mieux connaître le cœur d'une femme dont la vie est toute de fantaisie et de liberté. Il me fera crier, mais chanter jamais. » Le vice-roi contint à grand-peine sa colère jusqu'à la fin de la sophonisba qu'on jouait, et au moment où la cantatrice se disposait à regagner son logis, le Barghello vint avec une politesse de marquis la prier de le suivre au carcere. La Gabrielle y obéit avec une joie singulière, et à peine fut-elle entrée dans la sombre prison qu'elle se mit à faire résonner les voûtes humides d'accents si mélodieux que tous les condamnés se levèrent et se mirent à leurs barreaux pour écouter ces chants divins. Le lendemain, elle donna un dîner magnifique auquel furent invités les officiers aux arrêts et les détenus pour dettes. Jamais le carcere de Palerme n'avait été témoin d'une pareille fête. Tous les prisonniers bénissaient cette femme extraordinaire qui n'avait pas de rivale en Italie, et quand vint le soir, sans que personne la priât, elle chanta ses plus fameux morceaux avec un enthousiasme extraordinaire. « Quelle femme !» disaient tous les prisonniers en la contemplant avec admiration. À minuit, la Gabrielli cessa tout à coup ses chants inspirés. Ses yeux brillaient d'une flamme inaccoutumée. Une noble et sainte résolution venait de traverser son esprit, et au milieu d'un profond silence, elle dit d'une voix émue aux prisonniers « Il faut que ma venue ici ne soit pas éphémère comme un rayon de soleil qui passe. Beaucoup d'entre vous sont des pères de famille victimes de la cupidité incessante des usuriers. Laissez-moi venir à votre secours, mes nouveaux amis. Je gagne des onciadors comme vous des piccioli, et j'aurai la consolation d'avoir été utile à ceux qui souffraient. Combien devez-vous ? Additionnez les sommes. » Les prisonniers étonnés s'entre-regardèrent, mais la cantatrice y mit tant d'instances que l'un d'eux se chargea du travail. Le lendemain, on lui remit une liste sur laquelle se trouvait l'énorme chiffre de 2011 d'or. La Gabrielli fut frappée de ce total, mais elle maîtrisa son émotion et murmura ces nobles paroles. « Mon action ne sera que plus digne de la position de ces infortunés. » Puis tout à coup, elle se retourna vers Goffredo qui passait ses journées avec elle et poussa un bruyant éclat de rire. « Je tiens le vice-roi dans mes raies, mon bon ami. Vous m'aiderez, et Fabroni, malgré sa finesse, y succombera comme son maître. » Vous riez, et vous ne songez pas qu'il vous faut environ 10 000 écus, repartit Goffredo. « J'ai réfléchi à tout, mon bel adolescent. Vous m'amènerez, le plus secrètement possible, car aussi, le riche joaillier de la rue de Tolède. Je possède une parure estimée 3 000 onces, qu'il m'achètera 2 500. En le mettant du complot, je paye les dettes de mes prisonniers et les pauvres de Palerme auront le reste. Mais tu perdras ta parure, ma généreuse amie. Non, j'aurai fait une bonne action, et sans que j'aie à souffrir, elle rentrera dans mon écrin. Que feras-tu donc ? C'est là mon secret, cher Goffredo, et pour la première fois, permets-moi de te cacher quelque chose. Tu seras plus joyeux de la surprise. » Carossi vint au carcere et remit à la cantatrice 2 500 onciadors en échange de sa magnifique parure. Alors, la noble et belle fille fit venir les habits de créanciers des détenus et les paya. Puis, comme il lui restait une assez forte somme, elle la distribua elle-même aux pauvres accourus de toutes parts aux portes de la prison. Cette prison s'était transformée en un lieu de délices grâce à la Gabrielli. Chaque jour, c'était des repas splendides auxquels succédaient d'enivrants concerts. Ces dits étaient si belles que la plupart des prisonniers ne voulurent plus quitter le carcere malgré leur libération et que les grands seigneurs sollicitaient l'honneur d'y être invités. Le peuple se mit de la partie et réclama en furieux la liberté de la cantatrice. Effrayé de ces démonstrations violentes, le vice-roi dut céder et d'ailleurs il était poussé par son malheureux amour. La Gabrielli sortit donc du carcere après une détention de 12 jours et les palermisains la ramenèrent chez elle en triomphe. Après cette grande manifestation populaire, le premier visiteur qui parut à son logis, ce fut le docteur. « Soyez le malvenu, Fabroni » s'écria-t-elle d'un air étrange. « Votre maître est un barbare et vous pouvez retourner lui dire qu'il ne m'entendra plus crier. Dans 3 jours, je quitte Palerme. »« Vous n'en ferez rien, j'espère, signora. Le vice-roi vous adore et il brûle de vous donner des marques de son amour. Lui, l'avare, il fera tout ce que vous voudrez. C'est un ladre, docteur Fabroni, et de plus il est méchant et fat. Un sourire de vous le rendrait prodigue, souriez-lui et mettez-le à l'épreuve. » Les yeux de la Gabrielli s'animèrent, sa bouche se contracta, ses narines se gonflèrent et semblaient aspirer la vengeance. « J'ai vu une parure en diamant chez Carossi dont je rêve toutes les nuits. S'il me l'envoie, je lui offrirai ce soir à minuit un délicieux souper dans cette chambre même. « Vous êtes un ange, signora, » s'écria l'heureux docteur, et croyant sa fortune faite, il disparut comme la lueur d'un éclair. « Va, pauvre Pazzo, va. Ton maître dira que je suis un démon. » Le vice-roi embrassa Fabroni, et pour la première fois de sa vie peut-être, il ne songea pas à demander le prix du cadeau qu'il allait offrir. Fabroni, muni d'un ordre, courut chez le joaillier, prit la parure et la porta avec un billet d'une ridicule galanterie chez la Gabrielli. « Enfin » s'écria-t-elle en caressant de l'œil son splendide écrin. « À mon tour, la vengeance. Goffredo. Goffredo. Tiens, ami, mets cette parure dans ma cassette et prépare tout. » Un souper exquis fut ordonné. Puis, quand vint le soir, la célèbre primadonna écrivit un billet au vice-roi ainsi conçu. « L'on vous attendra, monseigneur, avec une vive impatience. Vous verrez que je ne suis pas moins généreuse que vous et que je comprends la vengeance à l'égal d'un vice-roi. » L'Altesse baisa et relut 100 fois ce billet ambigu. Il crut presque à un amour partagé, le pauvre homme, et dans des transports inouïs, il attendit l'heure de son triomphe. La Gabrielli prépara une seconde lettre, et cette lettre fut remise à la 2e heure de nuit, par un messager sûr, à la jalouse et redoutée vice-reine de Sicile, que le prince avait prudemment envoyée à la Bagaria, en lui disant qu'il la rejoindrait le lendemain. À minuit, l'Altesse arriva sans escorte au logis de la Gabrielli. Le souper attendait les convives. Le vieillard se précipita dans la chambre de la cantatrice à peine éclairée, et la joie aux lèvres et le sourire dans les yeux, il débitait une magnifique phrase amoureuse quand une voix aigre vint brusquement l'interrompre. L'avare s'arrêta court et trembla. Il venait de reconnaître sa femme. Jugez du coup de théâtre que cela fit. Atterré, confus, humilié, le pauvre vice-roi se laissa entraîner par la Sicilienne furieuse, et quand elle fut lasse de l'accabler d'injures, elle le quitta en lui jetant un second billet de la Gabrielli. « On m'avait dit que vous étiez avare, monseigneur, et je vois que c'est une odieuse calomnie. La parure que vous m'avez si généreusement offerte ne vaut guère moins que 15 000 écus et j'en ai dépensé 12 000 pour les souffreteux de Palerme. Merci pour eux, monseigneur, de ce présent tout royal. Et croyez bien que cette action sera dévoilée à toute l'Europe. » La Gabrielli. « 15 000 écus !» s'écria l'avare en se levant avec fureur. « 15 000 écus et être berné ! Oula, mes gens, mes officiers ! Courez chercher la Barghello, et sans colonel à quiconque me ramènera la Gabrielli. Ah, j'en mourrai !» Mais la Gabrielli, en femme prévoyante, avait laissé une spéronare montée par 8 rameurs vigoureux, et à 7 heures, elle voguait joyeusement vers l'archipel d'Éole, la tête appuyée sur la poitrine de Goffredo, riant tous deux de la cruelle déception de l'amoureuse avare. Tel est le récit qui me fut fait il y a quelques années à Leonforte, dans l'intérieur de la Sicile, par un homme presque centenaire. Et ce centenaire, c'était Goffredo de Calais-Taxibet, l'ancien amant de la Gabrielli. Ainsi s'achève la Gabrielli à Palerme par Lautin de Laval.